Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau, fidèle compagnon, bonjour. Cette semaine, on va sauver la planète avec l'essai de véhicules totalement verts et électriques, n'est-ce pas? Alors, on y revient en dernière partie d'émission. Hugues, tu vas nous parler de la Buick Reatta.
Oui, monsieur.
J'ai l'impression que 95% des auditeurs ne se souviennent pas de cette voiture-là.
Je pense que ton intuition est bonne.
Et pourtant, c'était une voiture assez originale.
Pour l'époque, absolument.
Et surtout pour cette marque-là qui était assez traditionnelle, merci, ouais. Dans les années 90. On va revenir là-dessus. D'abord, peut-être un mot, les gars, sur le salon du véhicule électrique de Montréal. Louis-Philippe est allé
faire son
tour
week-end.
Là-bas. Il y a eu du monde. Ben, essentiellement, il y a eu la même quantité de gens que l'année passée ou à peu près. Là.
Oui, je pense que c'est ça. C'est 30 000 visiteurs au cours du week-end que le SVR.
31 000.
Oui, ben, c'est ça. Puis oui, évidemment, ça ressemble à ce que c'était l'an dernier, sauf que cette fois-là, ben, on n'était pas sur l'aire de jeu du stade olympique. Ça, c'est quelque chose qui a été remarqué immédiatement. C'est plus dans les coulisses du stade olympique que le show a eu lieu. Je pense que les exposants, les véhicules étaient moins bien exposés. Par contre, les gens étaient en rendez-vous pareil.
Est-ce que tu as eu une certaine crainte que quelque chose te tombe sur la tête au moment où tu faisais le parcours?
Non, pas du tout. Non, dans les estrades, ça va, c'est dans le milieu, je pense, qu'il y a un problème.
OK.
Fait quand on disait on est sous le toit du stade olympique, c'était pas le cas.
C'était pas le cas.
Non,
il y a déjà eu des salons où il y a eu des problèmes au stade olympique?
Et jadis. Parlez-en aux gens de Subaru.
C'est ça.
qui se sont soudainement retrouvés avec une Impreza décapotable. mais bon, ça fait quand même des lunes. C'est en 2001. Mais si ma mémoire est bonne, qu'il y avait eu un incident.
Je pense que c'était avant ça.
Je pense que c'est 99. Ça
99?
Se
OK, ça se peut.
Ouais.
En tout cas, dans cette période-là. Donc, il y a eu des visiteurs au rendez-vous.
Oui, absolument.
Évidemment que les questions de l'heure, c'était « Je vais-tu l'avoir avant la fin de l'année? » C'était ça, les subventions. Puis bon, là, ça inquiète bien des gens.
Il y a eu énormément de questions sur les constructeurs qui font des rabais très alléchants, des constructeurs dont les produits sont actuellement douteux, par exemple, Fast, etc. Okay. Mais les gens disaient, maintenant, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine maintenant qu'on enlève Fisker, par exemple? Est-ce que maintenant, ça vaut la peine qu'il manque, tu sais, on a enlevé 20, 30 000 $ etc. sur le véhicule? Est-ce qu'à cause de ça, ça vaut la peine? Évidemment, la réponse, si le constructeur est sur le bord de la faillite, la réponse est toujours non.
Ouais. Non.
Donc, c'était souvent ça. Puis, ben, comme tu disais, des gens qui voulaient se faire livrer leur véhicule ou que ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient pour leur Ioniq 5 ou leur Ioniq 6, etc. Mais quand même très agréable. Beaucoup de questions, beaucoup des questionnements qui demeurent dans le temps. Beaucoup de mythes et légendes à propos des véhicules électriques. Puis, ben, évidemment, le Guide de l'auto, on était là pour démystifier
ça. C'est une constante éducation. Hein. Tu as l'impression que le message est passé puis encore, tu as des gens qui sont aux questions primaire d'il y a 10 ans.
Oui.
Parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça, parce qu'ils s'y sont pas intéressés. Fait que c'est une éternelle éducation.
Oui, je pense que jusqu'à 2035, il y a encore beaucoup d'éducation à faire.
Oui. Puis après 2035 aussi, parce que ça ne sera pas juste ça en 2035. Je mets un vieux 2 là-dessus. Dévoilement d'un Ram qui, lui, n'est pas nécessairement en lien avec le salon du véhicule électrique. C'est la version RHO qui vient essentiellement tirer un trait sur le TRX, là.
C'est ça. Il ne le remplace pas en termes de performance, évidemment, parce que c'est 702 chevaux versus 540 chevaux pour la version.
Seulement 540 chevaux.
Dans une camionnette plein format. Ben, bon, c'est le Hurricane, évidemment, le nouveau moteur Hurricane qui est la vedette en dessous du capot. Oui, c'est pas en remplacement. Par contre, on veut continuer à tirer dans ce segment-là chez Ram. Le véhicule, il ressemble pratiquement à ce qu'il était. C'est juste que c'est écrit RHO sur l'aile à l'arrière à la place d'être écrit TRX.
Oh oui.
Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les jantes sont pratiquement les mêmes, mais de la puissance en moins. Puis en question de prix, ça ressemble quand même un petit peu. Là. Je vais vous dire 112 000 $ versus 119 000 pour le TRX à sa dernière année.
Et puis, tu sais qu'ils vont tous les vendre pareil.
Ouais. C'est... Mais les gens qui ont acheté des TRX déjà, évidemment,
ils doivent se frotter les mains.
Ils doivent se frotter les mains, absolument.
Ouais, en même temps, je veux dire, c'est un camion qui doit tout simplement mieux aller de par le fait que tu as un moteur plus léger, de par le fait que tu as une livraison du couple qui n'est pas la même.
Ouais.
L'autre, c'est carrément violent. Là.
C'est ça. Mais c'est un moteur qui a 150 livres en moins en termes de poids. Puis aussi, la livraison du couple va être différente. On va le dire avec un anglicisme un peu moins rough. Là. Ça va être plus progressif de par les essais qu'on a fait du Hurricane. Je pense qu'on était d'accord là-dessus que la livraison du couple est différente. Mais par contre, toujours un camion qui va détonner là, quand on va le voir sur la route, c'est sûr.
Bon. G-Wagon électrique, ça a été dévoilé.
Oui.
Mercedes. C'est un autre contre-emploi là, parce que je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais j'ai l'impression que c'est le véhicule le moins aérodynamique actuellement commercialisé.
Ouais, ben.
Peut-être avec le Hummer.
Peut-être avec le Hummer.
Je vais te dire que, tu sais, je suis encore en train de parler de Mercedes et comment qu'ils ont assoupli les courbes de leur véhicule dans la transition électrique. Et puis, sur le G, c'est pas été le cas. On a le G qui est tout à fait G. On a arrondi les piliers A. On a mis un petit déflecteur en haut. Mais le reste, c'est le gros camion
arrondi les piliers A. On a pris un papier sablé 800. On a fêté 2 minutes.
Le papier sablé qu'on utilise chez Mercedes. le même châssis depuis 1979. On a mis de batterie dedans de 116 kWh, là, si je ne me trompe pas.
Ouais.
La plateforme a quand même été un peu modifiée. Là.
Oui.
Mais c'est le même principe.
Le châssis à échelle qu'on utilise. Puis le but, je pense que c'était garder ce véhicule-là. Les acheteurs de ce véhicule-là sont très spécifiques. Ils n'auraient pas acheté un véhicule qui est trop différent du jeu.
Non, c'est sûr.
Mais en
ils ont une niche que les autres Allemands n'ont pas, qu'on tente même de copier. Tu sais, moi, je regarde BMW avec un XM, non.
On essaie
d'aller chercher cette espèce de côté glam qui est si fort avec le G-Wagon, mais qui fonctionne pas ailleurs.
Ouais.
Puis, tu sais, le G-Wagon, ce qui est un peu drôle, c'est que c'est parti d'un véhicule militaire pour devenir un objet de luxe avec lequel on se trimballe comme une sacoche Louis Vuitton aujourd'hui. Là.
Ben, écoute,
c'est assez paradoxal.
La technologie en route, c'est sans précédent, encore une fois, pour cette génération-là. Par contre, chez Mercedes, on le sait que moins que 10% des gens qui achètent ce véhicule-là vont daigner le mettre un pneu dans la boue. Là, donc
moins de 1%.
Chez Mercedes, on dit 10, mais on disait tantôt justement, c'est moins que ça.
Mais
donc, le véhicule, c'est 4 moteurs électriques. Ouais. Hein, on est allé complètement le all-out, si vous me permettez, est capable de faire un tour sur lui-même. On a vu, avant le dévoilement du modèle de production à Las Vegas, il avait fait, là, à cause de la vitesse différente des moteurs, la poussée contraire, il peut faire un tour sur lui-même ou deux tours sur lui-même, puis après ça, il peut plus, là, je sais pas, c'est une question de calibrage. 400 km d'autonomie, on dit 473 au cycle européen, ça va être 400 km, mais les gens qui conduisent ça, ça va être toujours le pied dans le fond, donc je pense pas qu'on va aller chercher 400 km.
Est-ce que c'est un hasard, selon toi, si Land Rover a dévoilé aussi cette semaine l'arrivée d'un Range Rover tout électrique?
Ah!
On a comme l'impression que c'est un peu hasard.
Je sais pas si c'est un hasard, mais ils ont besoin de booster les nouvelles sur eux, puis d'attirer le focus, et puis de remettre un petit peu la lumière sur leurs produits, parce que...
Ouais. On veut piger dans les mêmes bourses, là.
Je trouve ce véhicule... parfaitement aberrant, le niveau de technologie qu'il faut pour... Parce que c'est un véhicule qui est conçu pour aller dans la flotte, pour aller dans des guets, dans des ruisseaux, dans des machins, avec 116 kilowatts de batterie dans le châssis.
Il y a
des plaques de renforcement, il y a 26 mm de plaques de renforcement, il y a du carbone, il y a du machin. C'est d'une débilité
absolu.
Compte tenu de ce que les gens vont faire avec.
C'est avec ça qu'on va sauver la planète, sérieusement.
Oui, come on.
C'est ridicule.
Et 6800 livres en passant.
Ben voilà.
En fait, non. La meilleure façon de sauver la planète, moi qui est le roi de la transition, c'est Hugues qui l'a. Parce que Hugues a acheté une Subaru Legacy il y a de cela 10 ans.
Ouais.
Et la voiture a 34 000 km.
Exactement.
Bon. Wow. Alors toi, tu sauves la planète en ne la conduisant pas et en ne la changeant pas. Et Subaru a visiblement réalisé que les gens qui ont des Legacy ne la changeaient pas puisqu'ils ont décidé d'annoncer cette semaine son abandon.
Ouais, là, je suis triste. Honnêtement. Ouais.
Une autre berline intermédiaire.
Une autre berline intermédiaire qui tombe.
Ben, écoute, ben ils en ont vendu 314 l'année passée au pays.
Mm-hmm. C'est le marché.
Il reste une version, c'est la GT. Et Subaru s'est fait... au fil des ans, une image qui cadre tout simplement plus avec cette voiture-là.
Non, absolument. Absolument.
Ouais, c'est vrai.
Alors absolument. Que, lorsqu'on l'a lancé en 90, la Legacy, c'est ce qui a permis de rehausser la barre de la marque Subaru. Oui. Souviens-toi, à l'époque, on avait des Loyal, des Chaser.
On sortait des Leon.
Bon, c'est des vieilles Subaru qui étaient très champ gauche comme produit. C'était un prof d'histoire qui achetait ça, une Subaru.
Typiquement.
C'était pas... c'était le prof d'histoire qui n'avait pas le budget d'une Volvo. Qui allait, c'était littéralement ça.
C'est pas le produit d'aventure là, qu'on met en marché maintenant.
Ça, c'est arrivé avec l'Outback. C'est vraiment l'Outback en 94 qui a changé l'image de la marque 4 ans après l'arrivée de la Legacy et qu'était-ce une Outback?
Ouais, la Legacy Outback.
C'était une Legacy Outback wagon, essentiellement. Mais on en est venu à pratiquement transformer ce véhicule-là pour qu'on oublie l'existence de la Legacy.
Ouais.
Et là, ben, c'est terminé. De toute façon, c'est un produit. Je ne suis pas certain si c'était vendu encore au Japon, une berline Legacy. Parce que c'était fabriqué à Lafayette, en Indiana. Mais
ben, celle qu'on avait ici, mais...
Mais est-ce qu'on l'avait encore au Japon? Je ne sais pas. Donc, mais c'est un produit, là.
Je pense même qu'ils avaient encore des station wagon classiques.
Ben, ils ont des Le Vorgue. Les station wagons, c'est des Levorgue qui sont basés sur des Impreza, mais allongés. Donc, c'est plus le même. Mais de toute façon, c'est un produit qu'on ne voit plus. Là. Qui connais-tu qui conduit une Legacy 2023-2022? C'est plus un produit qui se vendait. Et pourtant, c'est loin d'être vilain. Mais c'en est fait pour une autre berline intermédiaire.
Ouais. À qui le tour?
Le guide de l'auto.
Mais si on parlait de la Subaru Legacy, évidemment, c'est une voiture qui se trouve dans un créneau qui, lui, est en chute libre. On a peut-être un peu l'impression que c'est le prochain créneau à disparaître, un peu comme celui des voitures sous-compactes. C'est cette année que les sous-compactes disparaissent littéralement. Si on fait fi du fait que la Fiat 500 électrique revient, là, bon.
Ouais.
Mais des voitures sous-compactes sur notre marché, il n'y en a plus. Et là, tu analyses le marché de la berline intermédiaire au Canada, puis tu te dis, mais OK, mais pour encore combien de temps ça va être là? J'ai sorti des chiffres, puis ce que je regardais, c'est qu'aux États-Unis, l'an dernier, on a vendu 940 000 berlines intermédiaires. Évidemment, là, quand on parle de berline intermédiaire, c'est Toyota Camry, Honda Accord, Chevrolet Malibu, Nissan Altima. Ce sont les produits les plus vendus. La Sonata, la Kia K5, ce sont les produits les plus vendus dans ce segment-là, accessoirement la Legacy. Au fil des dernières années, il y a plusieurs modèles qui sont disparus. Hein. Pensez à la Fusion, la Chrysler 200, Mazda 6, Volkswagen Passat, qui est un produit important aussi, c'est disparu du marché. Et là, on en est venu même à classifier des voitures qui n'étaient pas traditionnelles nécessairement dans ce segment-là, comme la Prius, comme la Mirai, qui sont classées dans cette
comme
catégorie-là.
Comme un segment de rejet, un peu.
Oui. même la Maxima cadre un peu là-dedans, disparaît elle aussi, pour éventuellement revenir sous une autre forme qui sera électrique à suivre. Mais c'est assez fascinant de voir la transition dans ce segment-là, bien qu'aux États-Unis, la popularité soit encore immense. On a vendu 940 000 berlines intermédiaires aux États-Unis contre 923 000 voitures compactes.
Mmh.
Au Canada, c'est 6 fois plus de voitures compactes qui se vendent que d'intermédiaires, et les compacts sont en chute libre elles aussi. Donc, on a vendu, là, si on exclut, parce que c'est un peu drôle comment on le classifie au Canada, là, les Chrysler 300 et Dodge Charger étaient dans des berlines intermédiaires. Moi, je place ça dans des plans de grandeur. Les segments n'existent plus. Là.
Ben, c'est ça, il n'y a plus de... Ouais.
Mais si on retire ces deux voitures-là de Stellantis, qui de toute façon sont disparues, c'est 29 260 berlines intermédiaires qui ont été vendues au Canada contre 940 000 aux États-Unis. Ce qui veut dire que c'est 2,8 % du marché total. Le Canada a acheté 2,8 % des berlines intermédiaires vendues en Amérique du Nord dans un marché qui devrait normalement en acheter 10 %. Fait que c'est dire à quel point on est complètement désintéressé de ce créneau-là.
Ouais.
Et tu as des constructeurs comme Kia qui, cette année, ont fait « OK, nous autres, on s'en va du Canada, on arrête d'essayer de se battre, ça donne rien. » Le produit reste sur le marché américain, mais disparaît du marché canadien. Et là, je vous ai nommé tantôt les voitures qui sont disparues récemment, mais disparaîtront prochainement. La Sonata, la Malibu, la Legacy, ça, on le sait déjà.
Ouais.
Et l'Altima, fin de cycle, ça ne sera pas renouvelé. Donc, que va-t-il rester dans ce créneau-là? Accord Camry? Et Toyota, actuellement, sur le marché canadien, à lui seul, possède à peu près 40 % du marché avec la Prius, la Camry et les 12 Mirai qu'ils ont vendus l'année passée. Ben, c'est pas des farces. 12 Mirai.
Ouais, ouais. Et les propriétaires sont pas très contents parce qu'ils regrettent leur choix de pas pouvoir s'approvisionner
mais ils peuvent
aux États-Unis comme au Canada.
Ils peuvent pas aller se plaindre à personne, ils se rendent pas. Mais c'est ça le bilan du marché de l'intermédiaire en ce moment.
C'est très différent.
Et Toyota, c'est assez particulier parce qu'on persiste et signe. Bon, évidemment qu'on va le faire pour le marché américain, là, mais je vous parlais de 940 000 voitures intermédiaires vendues l'année passée aux États-Unis. Ça comprend 295 000 Camry. Fait qu'à elle seule, la Camry a 30 % du marché.
C'est ça.
Et si tu regardes le marché canadien, c'est à peu près le même ratio parce qu'on a vendu 8 500 Camry l'année passée au Canada. Quelque chose comme 4500 Prius. Fait que, tu sais, quand tu additionnes, Toyota a le gros du marché.
Ouais.
Mais la deuxième plus populaire au Canada, c'était la Malibu. Loin devant l'accord.
Wow,
on a fait du parc, évidemment. Là. C'était, c'était des ventes de parc. Là,
c'est ça.
Enterprise, bon, ce genre de...
C'est le véhicule de choix pour
Les compagnies. Mais c'est quand même un produit qu'on a vendu puis qui connaît encore aux États-Unis succès.
Absolument.
Il n'y a plus d'options.
Ouais.
Il n'y a plus de voiture chez les Américains.
Ben non.
Alors, tu sais, pour quelqu'un qui voulait acheter une berline Buick, pour quelqu'un qui voulait acheter une Ford, bon, ça n'existe plus. Fini. Que reste-t-il? La Malibu. Alors, c'est l'option actuellement. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec ce créneau-là parce que il ne peut pas rester juste la Camry et l'accord. À un moment donné, bon, la Camry va être peut-être seule sur son île, puis finalement, et on va faire une espèce de transition avec une Prius. À quel point on va réussir à le faire? C'est sûr que tant que les Américains vont en acheter massivement, le Canada va en profiter.
C'est clair.
Mais je pense que ce qui tue ce marché-là, c'est en grande partie les entreprises canadiennes comme ALG, comme Black Book, qui sont responsables d'établir des valeurs résiduelles et qui dévaluent à mort les berlines intermédiaires, alors qu'on surévalue souvent des VUS compacts. Fait que le client qui entre chez un concessionnaire Toyota puis qui se dit « Moi, je vais acheter une Camry. » Puis là, bon, la valeur résiduelle est à 44 % puis le RAV4, la valeur résiduelle est à 53. Même si le véhicule est le même prix, ben en location, on a un qui coûte 125 $ de plus par mois.
C'est ça.
Puis de toute façon, le vendeur va vouloir livrer le RAV4 qui est dans le cours, pas la Camry qu'on va commander parce qu'on n'en tient pas.
C'est un cercle vicieux, entre guillemets.
Exactement. Ouais, ouais. Fait que c'est ce qui tue littéralement la berline intermédiaire. Écoute, j'ai un ami qui travaille dans un concessionnaire Kia. Il dit, pendant la pandémie, on avait de la misère à avoir à peu près n'importe quoi. Puis on avait réussi à mettre la main sur des Kia K5, 4 roues motrices. Alors là, je les sortais toutes parce que j'avais pas d'autre chose. Puis parce que les gens prenaient ce qu'il y avait.
Ouais.
Mais dans un contexte où tu as un sportage qui est offert là, il n'y a personne qui va acheter une K5.
Qui va acheter ça.
Parce que le vendeur lui-même sait qu'il va pouvoir récupérer le sportage plus rapidement, le refourguer une deuxième fois, revendre un autre produit. C'est toute une game qui se crée.
Ouais. Et les arguments viennent également des firmes, comme tu viens de mentionner, qui c'est facile à vendre.
Mais là, aux États-Unis, ça n'existe pas, ça. Il y a pas de. C'est tellement un gros marché que si, par exemple, je te dis n'importe quoi, au Colorado, on n'achète pas de berline intermédiaire parce qu'on va préférer acheter des VUS. Tu sais qu'au Colorado, notamment, le produit de prédilection, c'est une Outback. Là,
ouais,
tout le monde
l'a.
Ben, tu sais, si jamais le Colorado en veut pas, c'est pas grave, on les fourguera à New York ou on les fourguera à Los Angeles. Tu sais, on peut jouer avec le marché, c'est tellement gros. Alors que chez nous, ça devient de plus en plus difficile de le faire.
Disons qu'on a des constantes météorologiques aussi qui font qu'il y a peut-être plus d'homogénéisation dans le désir d'acheter des VUS que des berlines.
Bien sûr.
Bon, il y a les hivers, les machins comme ça. Ça, ça joue. C'est sûr que quand tu regardes les États-Unis, les différences de température, les différences de conditions sont tellement vastes que ça a un impact aussi justement sur le choix et le choix des acheteurs. Pas juste du marché, pas juste de l'offre, mais vraiment de la demande.
Bien, ça, mais... Il faut quand même mentionner que les constructeurs de berlines intermédiaires se sont adaptés. Là. De plus en plus, vont offrir du 4 roues motrices.
Ouais.
La Sonata le fait, la Kia K5 le faisait. L'Altima est exclusivement en 4 roues motrices.
Ouais.
Camry s'est offert en 4 roues motrices avec l'hybride pour 2025. Il n'y a que l'Accord qui ne le fait pas essentiellement. Puis ça peut... L'Accord connaît un succès incroyable aux États-Unis. Ça se vend plus que de la Civic. Ça, c'est incroyable. Ah, chez nous, il n'y a personne qui achète ça. Là.
Vraiment, vraiment la différence.
C'est pas nouveau. Les berlines intermédiaires ont toujours été plus populaires aux États-Unis qu'au Canada. Même dans les années 90, même dans les années 2000, c'était déjà le cas.
Parce que les mœurs et la façon de percevoir le luxe n'est pas le même.
Tout à fait.
Alors ça, c'est l'affaire qui est intéressante. C'est que ici, on va préférer... Regarde, un produit qui avait connu un succès ici, mais qui était impossible à vendre aux États-Unis à l'époque, c'était une Acura EL. Les Américains ne comprenaient pas. Ouais. Pourquoi tu paierais pour une Civic de luxe endimanché avec du cuir alors que tu peux acheter une Honda Accord de base? C'était le même prix, là.
Ouais, bigger is better.
C'est ça. Alors, on achète...
Nous, on achète un produit plus petit, mais plus luxueux.
Les Américains définissent le luxe par le format.
C'est ça. On retrouve la mentalité européenne où c'est vraiment le contenu, l'équipement qui est plus important que le volume.
En Amérique du Sud, c'est la même chose. Là, il y avait des fits, là, je me rappelle pas comment, des jazz, je pense qu'on appelle en Amérique du Sud, qui venaient équipés avec le cuir, le système de divertissement en arrière pour les passagers à l'arrière.
Oui, mais attention, dans ce marché-là, la jazz est presque une grosse voiture.
Ouais, aussi.
Parce qu'on a des mini compacts sur ces marchés-là avec des moteurs de 1 litre.
Oui, il y a une voiture qui est en bas, là, cette voiture-là, mais on s'identifie quand même un peu.
C'est ça. Fait que les marchés sont tellement différents. Là, il y a une transition qui commence à se faire dans le monde de l'intermédiaire, c'est évidemment l'arrivée des électriques. Ça risque de changer la donne. Je parlais tantôt de la Maxima qui va être offerte en électrique éventuellement. L'Ioniq 6, c'est quoi? C'est une berline intermédiaire électrique. Bon, on ne classifie pas la Polestar 2 et la Tesla 3 comme des intermédiaires, mais on n'est pas...
Franchement,
on n'est pas vraiment loin.
Ouais.
Volkswagen, qui a abandonné sa Passat, avec quoi on arrive l'année prochaine? La ID7.
ID7, oui.
Bon, ben ID7, on a développé ça pour le marché américain puis pour le marché de la Chine, bien sûr. Là.
Ouais.
Mais c'est une berline intermédiaire qui vient essentiellement reprendre le flambeau de la Passat qui est disparue l'année passée. Alors, c'est un marché qui est en transition, mais j'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Parce que j'aimerais ça, voir revivre un segment de voiture et que ça ne disparaisse pas, encore une fois, au détriment des VUS.
Ouais. Ça, je te rejoins
pleinement. Puis c'est souvent, à toutes les fois que je conduis une berline intermédiaire, quelle qu'elle soit, je fais « mais qu'est-ce que ça va bien? »
C'est tellement mieux.
C'est un fort.
Il y a aussi la Mazda qui a dévoilé la Easy 6 à Pékin cette semaine, qui est une berline, une grande berline quand même. Je sais pas c'est quoi le format exactement.
C'est une étude de style. C'est plus... Ouais. On est pas mal plus à l'étape d'un concept. C'est ça. Puis je veux dire, ils ont sorti des concepts extraordinaires. Quel était le nom? La Shinari? La Mazda Shinari, qui était une espèce de magnifique évolution de la Mazda 6. Bon, alors ce concept-là n'a jamais vu le jour, puis je pense que Mazda se cherche un peu là, en ce moment.
Puis même, encore une fois, la berline est très bien vue en Chine. Il y a beaucoup constructeurs qui vont prendre des bases d'intermédiaires et faire des versions longues qui sont absolument inconcevables en Amérique du Nord.
Une Audi A4 allongée.
C'est ça. Et là-bas, c'est statutaire, c'est très bien perçu, etc.
C'est une des raisons durant les 10 dernières années, Buick, Lincoln, c'est des véhicules qui ont un statut en Chine spécifique.
Mais pas juste les marques, c'est de dire vraiment la berline est très bien perçue. Alors maintenant, ici en Amérique du Nord, c'est complètement has-been, quoi.
La raison pour laquelle on a un peu persisté chez Lincoln, chez Cadillac, en lançant à contre-courant une Continental, une CT6.
Ouais.
Ces voitures-là, j'ai fait « Ah oui, on essaie de relancer ça sur le marché américain. » Non, non.
Non, non, ça s'en allait là.
On va vous l'offrir par défaut, mais c'est pour la Chine. Puis ici, ça n'a pas fonctionné. C'était deux produits intéressants, honnêtement. Ouais. Mais trop peu, trop tard, peut-être, pour le marché sur lequel on était. Donc, il y a toute une observation qu'on va faire du marché de la berline intermédiaire. En attendant, c'est la Camry qui domine.
Et c'est parti pour continuer à dominer.
Et qui va dominer encore plus avec l'arrivée d'une technologie exclusivement hybride. Et l'offre d'une 4 roues motrices. Bien qu'on ait coupé la moitié des versions pour 2025, là, parce qu'on en avait 10 en 2024, incluant un moteur V6, là, ça va être que de
l'équipe. Non, c'est clair. Ça règle le problème.
Ouais.
Mais en même temps, ça va être plus facile de gérer les stocks, les choses comme ça. Donc, ça ne devrait pas être un problème de continuer à vendre les autos.
C'est ça. Mais si vous cherchez actuellement un produit de ce genre-là, ben il y a des véhicules qui sont encore bien intéressants. Peut-être moins au niveau de la valeur de revente, mais qui peuvent être... Tu sais, je regarde la Sonata, le 2024, même 2025, ce qu'ils ont fait comme retouche, qu'ils ont apporté comme modification technique. C'est un sacré beau produit pour le prix qu'on en demande.
Ouais,
c'est une valeur intéressante, mais c'est difficile à revendre.
Ouais.
C'est le problème.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
La voiture dont tu nous parles cette semaine, Hugues, est une curiosité pour la plupart des gens et on ne se souvient pas nécessairement que cette voiture-là a été produite. On parle bien sûr de la Buick Reatta, qui est une voiture deux places vendue par Buick à partir de 88.
C'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous estimez que vous devez redorer le blason de votre marque?
Question souvent posée par des Américains, ça.
Oui.
Mercury, Lincoln. Ouais, c'est ça.
Sortir un véhicule spécial qui vous permet de monter en gamme est une bonne piste. Pour Buick, cela signifiait créer une nouvelle image qu'ils avaient baptisée élégance sportive.
Oui. Bon, évidemment, le projet Reatta, c'est un projet qui a été la vision d'une personne chez Buick, mais qui a dû composer avec des contraintes un peu.
Ouais. Exactement. Alors, cette personne, c'est Lloyd Royce. Il est entré chez GM en 1957 et prend le titre d'ingénieur en chef de Buick en 1975, avant d'en devenir le directeur général en 1980, après avoir passé 2 ans comme ingénieur en chef de Chevrolet de 78 à 80. Dès 1975, il réfléchit à un modèle deux places et vers 77-78, un premier projet est évalué sur la base des futurs G-Car de 82, les Chevrolet Cavalier. Mais déjà sur le papier, le projet perd de l'argent. À son retour chez Buick en 80, Royce tente une nouvelle approche, cette fois-ci avec la plateforme des futurs e-car traction avant, Buick Riviera, Oldsmobile Toronado et Cadillac Eldorado, qui seront lancés en 1986.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'évidemment, on cherchait à développer une voiture biplace chez Buick, mais on n'a pas pensé à utiliser ce qu'on avait pris comme technologie pour développer la Fiero, qui était une biplace en 84.
Qui était probablement... Le problème de la Fiero, c'est que le moteur était à l'arrière. Et ça, c'est un...
Chez Buick, ça ne marchait pas.
C'était un... Déjà chez Pontiac, un jour, on fera l'histoire de la voiture. Et ça a été déjà chez Pontiac un projet très, très difficile à vendre. Ouais. Il a fallu qu'il mente un peu sur la direction à prendre du projet, la direction pour que le feu vert soit donné. Ça a été déjà très, très touché à faire. Je ne pense pas que chez Buick, ça serait passé.
Mais c'est intéressant d'observer tout ça et de voir à quel point chez GM, à l'époque... Les marques individuelles ne se parlaient pas. Ils avaient des projets qui leur étaient uniques. Aujourd'hui, tu ne peux pas développer un GMC sans être très, très collé sur Chevrolet. C'est impossible.
C'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Et parce qu'encore une fois, à l'époque, les divisions fonctionnaient encore à ce moment-là en silo. Et en fait, même la clientèle voulait que ouais. les on voulait une Buick avec un moteur Buick. Et c'était pas de dire, oh non, non, tu peux pas me mettre un moteur Chevrolet dans ma Buick comme aujourd'hui, maintenant. Je veux dire, il n'y a plus de moteur Buick, il n'y a plus de moteur Chevrolet, c'est du GM.
C'est ça.
Mais à l'époque, il y a même eu des procès. Des clients qui disaient, moi, il y a un moteur Oldsmobile dans ma Pontiac, j'attaque.
Ouais, ouais, c'est
donc,
ça.
Il y avait des incohérences chez GM, mais il y avait aussi une attitude de la clientèle qui faisait que on était un peu aussi dans un cercle vicieux.
Voilà. C'est ça. Donc là, tu me dis, on est allé puiser avec la technologie des Oldsmobile Toronado, les grands coupés qu'on avait chez General Motors à l'époque.
Ils sont prévus pour être lancés en 86, et justement, en utilisant cette base-là et avec l'utilisation massive de pièces de série, le programme apparaît rentable à des volumes relativement faibles. Et Royce arrive à vendre le projet à la direction de GM, qui l'approuve à l'été 81. À ce moment-là, le véhicule doit être commercialisé au millésime 84, mais ça, c'est en théorie.
Bon, c'est la plateforme essentiellement qui va poser problème sur cette voiture-là, parce que là, il faut peut-être retravailler l'idée sérieusement. Là.
Exactement. Un concours interne est lancé pour dessiner ce futur coupé Buick, et c'est Dave McIntosh, qui travaille au studio de design avancé numéro 2, sous la direction de David North, qui le gagne. C'est une proposition tout en courbe, avec des phares escamotables à l'avant, et un toit aux formes déjà très proches de la version finale.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ces lignes ne rentrent pas sur le châssis raccourci de 9,5 pouces de la future Buick Riviera, et c'est pour cela qu'il est décidé de rajouter une arête qui fait tout le tour de l'auto, afin de casser les rondeurs et un petit peu de modifier les proportions. Le bandeau arrière, quant à lui, il est inspiré tout simplement par la poche 911. Normalement, lorsqu'un programme progresse, il sort du studio de design avancé pour aller vers un studio de production qui va se charger de l'industrialisation. Mais comme peu de monde chez GM croit que ce coupé arrivera un jour en série, tout le développement se fera exceptionnellement au niveau du studio de design avancé, histoire de faire bouger les choses.
Et le design ne sera pas le seul problème de la Reatta, là, en plus.
Oh que non. Avec la nomination à la tête de GM en 1981, Roger Smith décide une réorganisation interne massive qui aboutira à l'abolition de l'autonomie des divisions, dont on parlait il y a quelques instants, et à la création en 1984 de deux maigres groupes CPC, Chevrolet Pontiac Canada, et plus spécialement destiné à la conception des petites voitures, et BOC, Buick Oldsmobile Cadillac, plus orienté vers les gros modèles. Cette réorganisation entraînera un immense chaos dans la corporation durant de nombreuses années. Entre ça et l'intense activité des bureaux d'études à cette époque, qui ont les programmes C-Body et N-Body pour 1985 et E-Body pour 86, tout ça obligera le chef de projet de la Reatta, Frank Colvin, à recourir à des ressources extérieures. Le développement est alors disséminé entre Détroit, l'Angleterre et le Japon. Alors vous pouvez imaginer un petit peu la facilité à gérer tout ce petit monde. Autre problème, GM n'est pas habitué à la fabrication de petites séries. Une ancienne usine d'essieux d'Oldsmobile à Lansing dans le Michigan est reconvertie. Au lieu d'utiliser une chaîne d'assemblage classique qui défile en continu, le nouveau chef de projet, G. Robert Thompson, choisit une méthode par poste. Un véhicule robotisé déplace chaque Reatta vers 24 postes séparés où des ouvriers accomplissent leurs tâches. Ceci permet de réduire l'investissement et améliore la qualité. Le site est rebaptisé pour l'occasion Reatta Craft Center et servira plus tard à la production des GM EV1, Cadillac Eldorado et Chevrolet SSR.
Okay.
Avant d'être détruit en 2008.
Festival de véhicules à succès.
Et voilà. Okay. Mais la place est-elle maudite.
Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, le véhicule en soi était quand même pas un produit vilain.
Non, pas du tout.
Et au niveau de la qualité, c'était très bien aussi. On avait une bonne base mécanique. Là.
Absolument. Malgré tous ces problèmes, la Reatta est finalement présentée en janvier 88. Le projet a pris près de 4 ans de retard à cause, entre autres, de la réorganisation, mais aussi du fait d'une entente entre Cadillac et Buick qui stipulait que la Reatta devait être lancée après la LNT.
Ah oui.
Okay. Exactement. On l'avait oublié, celle-là.
Ouais.
Il s'agit d'un coupé au CX de 0,34 sur un empattement de 2,50 m, long de 4,64 m et haut de seulement 1,30 m.
Oui, c'est tout petit.
C'est tout petit.
Ouais.
Suspension indépendante aux 4 roues avec un ressort transversal en composite à l'arrière, 4 freins à disque, ABS de série.
Côté mécanique, pas de surprise, on retrouve le vénérable V6 3.8 litres, 265 chevaux et 210 livres-pieds de couple avec une transmission automatique à 4 rapports. L'équipement est complet, siège électrique en cuir et suède, radio cassette, vitre électrique, verrouillage central, trappe dans la banquette pour les objets longs, deux compartiments verrouillables à l'arrière. Seules deux options au lancement sont les sièges ajustables en 16 directions et le toit ouvrant, offert un petit peu plus tard dans le millésime.
Je me suis toujours demandé pourquoi GM n'avait pas mis le 3,8 Supercharge dans ce moteur, dans cette voiture-là, considérant qu'on l'avait déjà dans la bonne ville, par exemple, dans certains autres produits.
C'est une excellente question.
Et c'est une voiture qui avait cette vocation d'avoir un moteur plus performant.
Honnêtement, quand on voit la rigidité du châssis, on se dit que 165 chevaux, c'est amplement suffisant.
C'est ce que c'est capable de prendre. C'est peut-être une partie de la réponse.
Je suis pas sûr que le châssis aurait pu encaisser le Supercharger.
Bon, cela étant dit, c'est une voiture qui se distingue par un paquet de trucs intéressants. Mm-hmm. Et l'habitacle, bon, évidemment, plus luxueux que celui d'une Pontiac Fiero au niveau de l'ergonomie de la planche de bord, de la disposition, ça ressemblait énormément, mais c'était un vrai véhicule de luxe pour l'époque. Là. C'était même avant-gardiste. Là.
Oui, oui. Puis il y a quelque chose de spécial. C'est le ECC, l'Electronic Control Center. La planche
moi,
de
ECC,
bord...
quand j'étais au secondaire, c'était éducation, choix de carrière. Ça n'a rien à voir. OK. Mais bon.
Okay. Non, effectivement. OK. Rien à voir.
Et tu auras compris que je ne suis pas allé souvent à ce cours. Bon, trêve de plaisanterie, on continue.
On continue. La planche de bord est intégralement reprise de la Riviera et embarque donc le tout nouvel écran tactile. C'est une vraie folie pour l'époque. Il comprend les commandes de climatisation, du système de son. Il y a aussi un ordinateur de bord, le diagnostic de l'auto et un calendrier. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en 1988, donc ce n'est pas un écran à cristaux liquides, mais bel et bien un tube cathodique à l'ancienne, comme dans les vieilles télés. Le système est donc lent et pas toujours très fiable, et la clientèle n'embarquera pas. S'ils savaient ce qui les attendait 30 ans plus tard.
Ouais, ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Bon. Au lancement, Buick fait bien attention à ne pas présenter la Reatta comme un véhicule sportif, on vient d'en parler, mais plutôt comme une auto luxueuse, agréable à conduire et facile à vivre. Au Canada, elle est offerte à la somme quand même copieuse de 39 998 $.
On est en 88, là.
Ouais, c'est en comparaison, une Riviera, ça demande 32 898, une BMW 325i est à 32 900, une Cadillac Eldorado est à 40 498 et une
Allanté,
pour comparaison, 83 178 $.
Fallait le faire.
Hey. À ce moment-là, Buick espère écouler de 5 à 7000 exemplaires pour le premier millésime tronqué et ensuite vendre aux alentours de 15 000 exemplaires par année dans les années suivantes. Un cabriolet est d'ores et déjà prévu pour 1989. Et petite note intéressante, quand le nom a été proposé par David North en hommage au film Géant de 1956 avec Rock Hudson, Elizabeth Taylor et James Dean, et dont l'histoire se passe dans un ranch texan baptisé Reatta, mais avec un seul T, un mot qui veut dire l'assaut en espagnol.
Je ne savais pas. Bon, comment ça se passe les choses avec ce produit-là? Ça connaît du succès?
Bah, initialement, c'est plutôt pas mal. L'accueil de la presse est plutôt bon. Elle salue la qualité de finition, l'excellent compromis entre le confort et la tenue de route, ainsi que l'équipement, mais moins l'impuissance un peu limitée, on en a parlé, l'écran tactile et le pas très très gracieux porte-à-faux avant imposé par l'utilisation du châssis. Le millésime 89 ne voit que peu de changements. Les ventes sont déjà, par contre, en deçà des attentes de Buick. Le cabriolet arrive en 1990 au lieu de 89, parce qu'en fait, la plateforme E, au départ, n'avait pas été conçue pour se passer du toit. Donc, il a fallu une année additionnelle pour développer...
Rigidifier tout ça.
Se rigidifier, c'est un bien grand mot.
Est-ce qu'on avait fait appel à American Sunroof Company pour ça? Ou c'était vraiment à l'interne?
Je pense que c'est à l'interne.
OK.
Ça, je pense
que
c'est à l'interne.
Parce que GM a fait affaire avec eux
très
souvent,
régulièrement. Hein. Mais comme c'était un produit qui a été développé un peu on the side, je pense qu'ils ont réussi à faire ça à l'interne. Et je me dis que si ASC avait participé, ça aurait peut-être été mieux fait aussi.
Peut-être. Très heureux qu'on n'ait pas fait de version avec des toits de vinyle de cette voiture-là, parce que Buick était bon là-dedans aussi à l'époque. Ça aurait été assez laid.
Ah non, mais non, je pense que là, ils n'auraient pas osé. Là. Ça aurait vraiment été moche. Oh mon Dieu. Le toit à ouverture manuelle ne fait pas non plus l'unanimité, parce que, mine de rien, le supplément demandé pour le cabriolet est de 8 000 $. Ce qui est quand même un petit peu sérieux.
Pour 1990, il y a une nouvelle planche de bord entraînant la disparition de l'ECC, donc le contrôle des cours, et l'apparition d'un coussin gonflable. Les ventes ne décollent pourtant pas en 1990, et 1991 ne voit que quelques améliorations mécaniques, V6 à 170 chevaux et 220 livres-pieds de couple, nouvelle boîte automatique à contrôle électronique et rapport de pont modifié, puis l'équipement est un petit peu enrichi, mais tout ça ne suffit pas et Buick est largement en dessous de ses objectifs.
On a l'impression qu'on l'a lancé puis qu'on l'a juste laissé aller. Qu'on n'a pas mis les efforts nécessaires pour la faire connaître.
À l'époque, on avait l'impression que si ça décollait pas tout de suite, GM avait un petit peu de difficulté à soutenir des produits qui avaient un petit peu de problèmes. Alors qu'effectivement, il manquait pas grand-chose.
S'il y avait un produit qui était de qualité très honnête pour l'époque, dans une ère où les produits GM étaient assez bâclés, c'était un produit
justement, je pense que c'était aussi justement dû au procédé de production par poste, lent, avec vraiment des ouvriers dédiés à des tâches, et plutôt que la chaîne qui roule, et puis qu'on n'arrête pas, même s'il y a un gros problème. Quoi.
Donc, 92, on tire la plug, et c'est celui qui a initié le projet qui va l'annoncer.
Et oui, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est Lloyd Russ lui-même qui, entre-temps, est devenu président de GM, qui annonce le 5 mars 91 la fin de la Reatta. Le dernier modèle sort des chaînes le 15 mai 91 après seulement 21 751 exemplaires. C'est pas beaucoup. C'est 19 314 coupés et seulement 2 437 cabriolets. C'est vraiment très peu. Les raisons de l'échec sont multiples. Image floue, prix élevé, absence de V8. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, il y a peu de strictes de place qui arrivent à dégager du profit. On pense à la Corvette et à la Miata, c'est à peu près tout, mais ces véhicules sont des sportives. Et donc, en fait, au final, la Reatta n'aura pas fait grand-chose pour l'image de Buick, qui commencera à s'éroder sérieusement dans les années suivantes. Comme quoi, c'est pas toujours facile d'attraper la clientèle, même quand on s'appelle l'assaut.
On n'en a pas fabriqué beaucoup des Buick Reatta en terminant, mais c'est peut-être mon feeling. J'en vois tout le temps une ou deux passer sur Marketplace à des prix ridicules.
C'est des voitures qui ont, j'irais pas jusqu'à dire un cult following, mais ceux qui les aiment vraiment et en prennent soin. Et on peut trouver des très, très beaux exemplaires encore aujourd'hui.
À prix raisonnable.
Oui, à prix raisonnable.
Ah ouais. Mais il ne faut pas mettre de V8 Supercharged dedans.
Ah non. Non, ça va déchirer en deux.
Ça va plier en deux. Merci, Hugues.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.
Louis-Philippe, dans la catégorie des véhicules qui sont d'une importance capitale pour le constructeur Porsche, je pense que le Macan en fait partie, et particulièrement cette version tout électrique que tu es allé conduire récemment.
L'importance du Macan dans sa version actuelle à essence est extraordinaire. C'est 850 000 unités qui ont été écoulées. Maintenant, la deuxième génération, comme on s'y attendait, va être strictement électrique. La première génération, on continue à la vendre en Amérique du Nord. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il y a la législation qui s'est mêlée là-dedans. Tout ça, fait qu'on ne sait pas le futur tout à fait, qu'est-ce qui va arriver.
Donc, on étire la génération actuelle à essence pour encore quelques années, mais en parallèle, on va vendre la nouvelle génération tout électrique.
Exactement.
Okay.
Génération tout électrique qui se décline en deux modèles que j'ai essayé, le Macan 4 et le Macan Turbo. Évidemment, c'est un gros gamble pour Porsche de faire ça parce que je vais à la fin de mon essai, vous allez savoir le prix et puis c'est quand même loin d'un Macan de base et c'est quand même loin de la porte d'entrée du constructeur tel qu'on la connaît avec le Macan. Un véhicule extrêmement performant, j'ai pas besoin de vous dire, hein, deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, évidemment la configuration habituelle. Le Macan 4 développe 402 chevaux, 479 livres-pieds de couple, et le turbo c'est 630 chevaux et 833 livres-pieds de couple. Les moteurs à l'avant sont pareils, c'est les moteurs à l'arrière qui diffèrent. Là, du côté du turbo, on a la vectorisation du couple, le différentiel verrouillable virtuel, etc.
Taille de batterie, on est à quoi?
En fait, c'est à l'arrière qu'ils ont installé les deux turbos, c'est ça?
Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas chercher un turbo sous le capot du Macan Turbo de deuxième génération.
J'ai tout compris.
Donc, nomenclature oblige.
Mais taille de batterie, on est à quoi?
On est à 100 kWh, donc 95 qui
gros,
est utilisable.
C'est gros pour un gros
de batterie. Oui, parce que c'est un utilitaire compact. Il faut se rappeler que
mais
c'est encore...
Mais le poids de ce véhicule-là doit se faire sentir, forcément.
Écoute, on a mis le paquet côté châssis chez Porsche. Puis moi, dans mon essai, j'ai pu l'amener dans des cols, puis dans des routes qui demandaient quand même un certain dynamisme. Puis on peut féliciter les efforts qui ont été mis parce que la technologie côté châssis, la suspension, c'est extraordinaire comment qu'on minimise le roulis sur un véhicule qui est aussi pesant. Là, maintenant, je n'ai pas besoin de vous parler de l'accélération. Là, dans la version turbo, mets 100 piastres sur le dash, puis essaie d'aller le chercher. Là, c'est ça le truc. C'est très, très, très performant, quasiment ridiculement performant dans la version turbo. Je trouve que la 4, c'est amplement suffisant avec au-dessus de 400 chevaux. C'est sûr qu'il y a quand même à l'intérieur, évidemment, un petit peu plus d'espace de chargement. Il y a un coffre à l'avant, etc. C'est un véhicule qui est habitable. Puis, je pense que c'est la vocation aussi qu'on veut lui donner parce qu'on va aller chercher quand même les gens qui veulent avoir un utilitaire performant, mais aussi qu'on peut charrier tout le stock qui vient avec.
Mais est-ce qu'on le voit comme le futur véhicule de masse de Porsche?
Écoute, c'est une bonne question parce que là, qu'est-ce qui va arriver avec les prix? On part là avec la variante 4, c'est 99 300 $ au Canada. Et puis, je dois te rappeler, encore une fois, que chez Porsche, les options...
Non, ça veut dire 125.
C'est 125 000 parce que les sièges chauffants sont optionnels à 660 $ Tu sais, les simulateurs...
C'est mesquin.
C'est ce que c'est avec Porsche. Donc, évidemment, on peut se monter exactement un véhicule. Mon véhicule d'essai, je pense que dans le Macan 4, c'était 125 000 $ Et puis, le Macan Turbo, on commence à 125 300 justement. Mais
donc, 150. OK, parfait.
Le Speed Yellow, le modèle avec la couleur Speed Yellow, je pense qu'on le voit là à l'écran, justement. Cette couleur-là, simplement, elle est 12 750 $
Une aubaine.
Donc c'est un véhicule qu'on peut monter, puis la limite n'est pas là.
Les rôtisseries Benny vont s'en procurer de ces Macan électriques jaunes-là pour aller livrer du poulet.
En fait, écoute, c'est l'équivalent des déductions fédérales et provinciales. Ah non, merde, c'est vrai, on n'y a pas droit. Oh.
C'est ça. Il y a une taxe de luxe, par exemple. Donc,
ouais, c'est ça.
En termes d'autonomie, on parle de 600 km sur le cycle européen. On va se rapprocher de 500 km avec le cycle de l'EPA. Côté impression de conduite, là, c'est sûr que quand j'ai conduit une Taycan pour la première fois, une Porsche Taycan, c'est une Porsche Taycan. C'est la première Porsche électrique. On la conduit puis on la classifie comme une voiture électrique. Moi, le Macan, c'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai aimé les Macan GTS, Macan T plus récemment, Macan Turbo. C'est quelque chose que je me disais, si jamais j'ai besoin d'un utilitaire, je vais regarder ça parce qu'il y a quand même du Porsche dedans et c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Là, il y a la difficulté d'accepter un peu le fait qu'on électrifie ce modèle-là parce qu'il est beaucoup plus cher, il n'est plus l'entrée de gamme. Puis aussi, je pense que la conduite, aussi sportive et enivrante qu'elle peut être, elle n'est pas aussi émotive qu'avec le 2.9 litres.
C'est sûr. Puis moi, ça m'inquiète tellement pour la prochaine génération de la Boxster, de la Cayman.
Exactement, c'est ça. C'est quelque chose. Parce qu'il y a des voitures qui sont tellement agréables à conduire, coche en haut au niveau de la sportivité comparativement à un utilitaire, évidemment.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut inévitablement. C'est comme un peu la peur de cet inévitable-là chez Porsche dans l'électrification. Avec la Taycan, c'était pas la même affaire, justement, parce que c'est un véhicule électrique.
Ça. Ta perception, elle est...
Elle est là. Donc voilà. En parallèle avec ça, j'ai essayé un bateau électrique, fait en collaboration avec Froscher. C'est un manufacturier de bateaux autrichien qui a travaillé avec Porsche pour intégrer le groupe motopropulseur du Macan électrique dans un bateau.
Ne cherchez pas ça dans les marinas Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il n'y en aura pas.
Non, pas tout de suite. Juste parce qu'il n'y a pas de borne là encore.
Ouais, c'est ça.
Donc, on a intégré la batterie, la même batterie de 100 kWh, avec le moteur arrière, c'est 400 kW, là, donc ça se traduit environ, je pense, 540 chevaux.
Donc, ça flotte.
Ça flotte.
Oui.
Ça flotte, très bien. Il y a un mode sport plus également pour le bateau, qui est pour le formuler, là, c'est à peu près un 28 pieds qui peut accommoder jusqu'à 9 personnes. Bon, évidemment, ça n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un bateau à essence. C'est ça, je ne peux pas me prononcer sur des essais de bateau parce que je ne suis pas un essayeur de bateau. Mais je peux vous dire que deux affaires que j'ai adorées à propos de cet essai-là, c'est que pas de bruit. Enfin, un vrombissement qui est à cause de l'eau et à cause de la
profiter de la turbine, nature, etc. D'être sur l'eau sans le bruit d'un moteur à gaz.
Et pas la puanteur du moteur à gaz. Quand on est sur l'eau, vous le savez, sur le bateau, c'est toujours comme ça. Donc, un 2+ pour ce bateau-là. un moins, très performant aussi, on peut aller là, jusqu'à une vitesse de 85 km/h. Là, c'est simulé. Là. Bon, sur l'eau, c'est mm-hmm. différent, mais c'est quand même assez rapide et assez réactif. Le prix? C'est peut-être le bémol du bateau, 600 000 $ US, ça représente en ce moment 800 000 $ canadiens. C'est en vente cet été chez Porsche Frochère.
Bon. Est-ce que tu aurais une idée de l'autonomie de ce truc-là?
50 km, ouais. On va faire environ 25-30 minutes pour la recharge, mais ça dépend comment que tu te fais aller en sport ou sport plus. À peu près 50 km, ça va prendre une demi-heure pour le recharger. Donc
600 000 $ US pour faire 50 km d'un coup.
Ça
flaire la bonne affaire.
Hein? Oh oui, ça, l'aubaine. En veux-tu une autre aubaine?
Oui,
le véhicule que je conduis, moi, cette semaine, que je suis allé chercher tantôt.
Oui.
Alors, ceux qui veulent le voir un peu plus en détail, je le présente à Salut Bonjour ce dimanche. Mm-hmm. C'est le nouveau Hummer électrique. Et c'est intéressant parce que les gens ne le savent pas.
C'est le modèle utilitaire que tu as.
Le modèle utilitaire, c'est pas la camionnette. Mais bon, c'est une bébelle, là. Mm-hmm. On va être honnête. Là.
Ouais. J'ai eu l'occasion de le conduire.
Tu t'assois là-dedans. T'as l'espèce de pare-brise plat comme dans un Jeep Wrangler, comme dans les précédents Hummer. T'es vraiment à bord d'un Hummer, mais dans un véhicule tout électrique qui pèse, tenez-vous bien, 9440 livres.
La planète est sauvée, okay. Ladies and gentlemen.
Alors, ça remorque 7500 livres, ouais. Mais ça pèse 9440 livres. Et j'ai pas besoin de te dire que l'autonomie annoncée à 505 km, si tu remorques 7500 livres avec,
c'est moins de la moitié.
Tu viens de la couper du minimum de la moitié.
Ouais.
Ce qui me fascine le plus, c'est qu'il y a une batterie de 205 kWh. Ouais, mm-hmm. Alors, fais le calcul. Si tu recharges de 0 à 100 ta batterie sur une borne de 0 à 100 ta batterie sur une borne de 100 kWh, considérant que tu vas avoir des variations de charge vers la fin, ça va te prendre minimum 3 heures pour recharger ça.
Mais est-ce que je me trompe ou le Hummer a deux ports de recharge pour être capable d'avoir le système en parallèle, là, si je me trompe pas, qui est divisé pour être capable de charger plus rapidement.
Quand tu voudras, il faut que tu aies deux bornes.
Oui, mais c'est ça, t'en prends, tu déplugues une Tesla. Puis
non, ça consomme plus de 50 kWh. En fait, ça consomme.
Oui.
Je me suis envenu, là, c'est pas dur, je faisais 2 km par kWh. Fait que fais le calcul, c'est 50 kWh par 100 km.
Ah ouais.
Tu sais. La batterie de ma Chevrolet Bolt, c'est 64 kWh avec laquelle je fais 400 km. Donc, ça consomme essentiellement 3,5 à 4 fois plus que la Chevrolet Bolt électrique. Mmh. Et le poids se fait tellement sentir. Roules avec ça, c'est gargantuesque.
Ouais.
Et tu sais, c'est un véhicule de 145 000 $. Je t'avoue que le truc qui me plaît, c'est que tu peux enlever les 4 panneaux de toit.
Ouais.
C'est vitré. Ça fait. C'est sûr que c'est un beau jouet d'été.
Tu peux les ranger à l'avant.
Tu peux les ranger à l'avant dans des pochettes qui ont été conçues à cet effet-là. C'est bien pensé pour ça. Ce qui déçoit, par exemple, c'est que tu as la finition d'un Chevrolet Venture 2004.
Oh!
OK, autant dans les camions GMC Sierra, dans des Escalades, sont capables d'aller chercher un beau niveau de finition. Là-dedans, ça fait pitié, là.
Mm.
C'est ordinaire, pas à peu près. Ils se sont pas cassés la tête. Ils ont mis deux écrans. Oui, c'est facile à utiliser. Puis les écrans,
les écrans
c'est
écrans
très
sont
moderne.
Très bonne définition.
Ça, ça va. Mais la qualité des matériaux, je veux dire, peu importe le prix que tu en demanderais, c'est du GM de bas de gamme en ce qui me concerne. On fait mieux dans plusieurs autres produits chez General Motors. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a coupé là-dedans.
Mm.
D'ailleurs, tu roules puis il y a des craquements partout. Tu sais, t'entends les panneaux de toit vitrés craquer un peu. Tu sens forcément le poids du véhicule.
Ça n'a pas changé beaucoup depuis les années 70. Hein?
Et le seul fait d'effleurer l'accélérateur, il y a comme une espèce de bruit agaçant. Ça fait tout le temps. Mm. Mon imitation n'est pas parfaite. Si vous voulez avoir le vrai bruit, je vous invite à aller le conduire. Parce que je ne me rendrai pas au niveau de la perfection ici. Mais il y a une espèce de bruit un peu agaçant qui fait que tu veux juste monter le volume de la radio pour plus l'entendre. Et il y a des bruits éoliens, là. Moi, je m'en vais.
Ah oui, moi, je me rappelle dans mon essai, c'est le vent.
Ouais, avec un pare-brise ce que tu veux.
Essaye d'avoir une conversation téléphonique dans ce véhicule-là. Les gens, hein, je t'entends mal, hein? Pourtant, tu as payé ça 145 000 $. C'est juste ce qui est drôle. C'est tellement lourd comme véhicule que tu ne paieras pas de taxes de luxe sur un Hummer Parce que c'est au-dessus, son poids ouais. net brut véhicule, son poids nominal brut dépasse les 8500 livres et donc est qualifié comme un véhicule commercial. Mmh. Donc, tu ne paies pas de taxes de luxe dessus. Et pourtant, si un véhicule qui peut être qualifié de jouet de luxe inutile, c'est bien le Hummer électrique. Et on rit là, mais avec un véhicule de 9440 livres, tu ne sauves pas la planète.
Mmh. Ah bon?
Non, je te le dis. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.